France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. En Syrie, l'offensive de la milice arabo-kurde appuyée par les États-Unis contre la dernière poche tenue par l'organisation État islamique s'est accélérée ce matin. Et ce, même si de nombreux civils restent encore prisonniers des combattants djihadistes. Le complot américain contre la République islamique est voué à l'échec. Déclaration aujourd'hui du président iranien Hassan Rouhani à l'occasion du 40e anniversaire de la Révolution. Le chef de l'État a notamment précisé que son pays allait continuer à développer ses capacités militaires.
Même si l'annonce hier de la candidature du président Bouteflika pour un 5e mandat n'est pas franchement une surprise, elle inquiète une partie des Algériens pour qui non seulement les jeux sont faits, mais plus encore, qui se demandent comment l'homme affaibli depuis son AVC sera-t-il capable de tenir les rênes du pays.
À moins de 3 semaines maintenant de l'échéance fixée par Washington, avant une possible nouvelle salve de sanctions contre Pékin, Américains et Chinois doivent reprendre aujourd'hui leurs négociations commerciales.
Et dans cette édition également, en France, l'Assemblée nationale se plonge aujourd'hui dans le premier grand texte sur l'école porté par Jean-Michel Blanquer.
Un projet de loi accueilli fraîchement tant par les syndicats que par les partis d'opposition. Et puis à l'occasion de la remise aujourd'hui d'un rapport sur l'inclusion des élèves handicapés, invités de ce journal dans une quinzaine de minutes. Isabelle Brion, déléguée ministérielle pour l'inclusion scolaire. Enfin, les auto-écoles ont débuté ce matin leurs opérations escargot en région parisienne pour protester contre une ubérisation du permis de conduire menacée, selon elle, donc par un rapport parlementaire qui pourrait favoriser les plateformes en ligne. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
C'est un droit d'inventaire, une sorte de bilan des années Obama du côté de sa politique étrangère, dans le regard et sous la plume de l'Américain Ben Rhodes, qui sera notre invité à partir de 1055. Il a été le bras droit de Barack Obama durant toutes ces années, ses deux mandats, l'ancien conseiller aux affaires stratégiques. Il raconte aujourd'hui dans un livre qui vient de paraître, Obama confidentiel.
Merci et à tout à l'heure. On l'appelle d'ores et déjà la bataille finale, de sorte que l'assaut lancé samedi dernier contre l'ultime réduit occupé par l'organisation État islamique dans l'est de la Syrie en guerre ne laisse que peu de place au doute quant à son issue. L'enclave assiégée, située près de la frontière irakienne, abriterait quelques 600 irréductibles du terrorisme islamiste confinés sur 4 petits kilomètres carrés à peine, sauf que la progression des combattants arabes et kurdes soutenus par Washington est encore compliquée par la présence de plusieurs centaines de civils que les djihadistes utiliseraient comme bouclier humain. Et c'est ainsi que pour éviter un bain de sang parmi les civils, les forces démocratiques syriennes ont décidé de ne pas lancer d'offensive massive et de se limiter, pour l'instant du moins, à des frappes de précision. Étienne Monin, bonjour. Étienne Monin, est-ce que vous nous entendez ? Alors, nous avons perdu Étienne, nous essaierons d'y revenir tout à l'heure. En Afghanistan, le possible retrait d'une partie des forces américaines présentes sur place inquiète, même si en l'occurrence les 17 années de guerre qui viennent de s'écouler n'ont pas permis de mettre fin au chaos dans la région. Toujours est-il que ce matin, le chef du Pentagone par intérim est arrivé à Kaboul afin d'évaluer la situation en Afghanistan. Il doit y rencontrer plusieurs hauts représentants de l'armée américaine, mais aussi du gouvernement afghan, dont il souhaite qu'il soit impliqué dans les négociations de paix avec les talibans. Or, depuis que ces négociations ont débuté, c'est vrai que des dissensions demeurent quant à la participation ou non des autorités afghanes avec qui la milice islamiste refuse tout dialogue. Preuve que les mouvements de libération ne se soldent pas toujours par les résultats escomptés. L'Iran, qui célèbre aujourd'hui les 40 ans du soulèvement qui a donné naissance à la République islamique, n'est pas franchement à la fête. Parmi les motifs de dépression, on cite pêle-mêle le retour des sanctions américaines, mais aussi la crise économique et en particulier la dépréciation de la monnaie nationale. En revanche, si un acquis demeure de la victoire de la révolution islamique, c'est qu'elle a bel et bien renversé l'ordre géopolitique mondial et qu'à ce titre, Téhéran demeure encore aujourd'hui un acteur majeur au Moyen-Orient, de l'Irak jusqu'au Liban. Franck Madvon, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre envoyé spécial à Téhéran à l'occasion des festivités donc de ce 40e anniversaire. Vous étiez ce matin sur la place Azadi où le président s'est adressé à la foule, Hassan Rouhani, qui a notamment proclamé que le complot américain contre son pays était voué à l'échec.
Oui, des drapeaux iraniens, des slogans anti-américains, des chants révolutionnaires. Voilà ce qu'on a vu et entendu ce matin, place Azadi à Téhéran. La foule a bravé la pluie froide qui tombait sur la ville pour fêter l'avènement de la République islamique. Les Iraniens dans la rue aujourd'hui soutiennent le régime. Ils sont attachés aux valeurs de l'islam chiite. Vida, vêtue d'un chador, comme presque toutes les femmes sur cette place, vient chaque année.
Je suis une enfant de la révolution. Voilà 40 ans que j'assiste à ces célébrations. Je viens ici pour applaudir les succès de notre République islamique. Aucun pays ne pensait alors que la révolution tiendrait 40 ans.
Cet anniversaire intervient, vous l'avez dit, à une période difficile pour l'Iran. Les sanctions américaines ont plongé à nouveau le pays dans la crise, des sanctions rétablies l'an dernier. Mais l'Iran ne veut pas courber les Chines. Il vient, par exemple, de dévoiler un nouveau missile la semaine dernière. Alors que le programme balistique iranien inquiète l'Occident, voici la réponse tout à l'heure du président Hassan Rouhani dans son discours.
Nous n'avons jamais demandé et ne demanderons jamais à personne l'autorisation de fabriquer des véhicules blindés, des missiles antiaériens ou des missiles de croisière. Et nous continuerons sur ce même chemin.
Rouhani a aussi vanté son bilan, mais les Iraniens sont très critiques. Les plus conservateurs estiment qu'il a accordé trop de concessions à l'Occident, alors qu'une grande partie de la population demande pour sa part plus de réformes et de respect des libertés, et ceux-là n'ont pas manifesté ce matin.
Merci Franck Madvon, en direct de Téhéran, ainsi qu'à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Et nous avons retrouvé Étienne Monin en Syrie, en direct de Kamishli. Bonjour Étienne.
Oui, bonjour.
Vous êtes à 6 heures de route à peu près du dernier bastion donc tenu par Daesh. Je le disais tout à l'heure, la bataille finale a commencé, dirigée par la coalition soutenue donc par les États-Unis ainsi que les Arabes et les Kurdes. Jusqu'à présent, on avait compris que l'assaut devait durer quelques jours, notamment pour protéger les civils, sauf que depuis ce matin, Étienne, une accélération est en cours.
Oui, c'est ça. Depuis quelques jours, les combats étaient gelés. Officiellement, donc, pour le cas des civils, 25 000 personnes sont sorties ces dernières semaines de cette enclave. Mais on soupçonne aussi l'ouverture de discussions dans cette période. Cela dit, samedi matin, comme vous le disiez, l'aviation a repris les bombardements qu'on entendait à 4 kilomètres. Le compte à rebours est donc lancé pour la chute du califat. Le rapport de force est totalement disproportionné. La position de Daesh est désespérée. Il faut imaginer un petit village au milieu des palmiers. Il est calé entre un plateau et le Frat. Les maisons sont en briques de terre. Il faut des heures de route pour accéder à ce bord de Syrie. Daesh est retranché dans un minuscule périmètre. Le nombre d'étrangers, de combattants étrangers sera important. Ils sont considérés comme les plus aguerris, les plus radicaux, ceux qui ont survécu notamment aux campagnes de Mossoul et de Raqqa. Ils sont entourés maintenant par un millier de civils d'après les forces démocratiques syriennes. Les conditions de vie dans cette enclave sont plus que précaires. Il n'y aurait ni eau, ni nourriture. Les abords sont minés. Des tunnels auraient été creusés. Les combattants kurdes et arabes sur place espèrent maintenant avancer très rapidement. Mais la résistance est pour l'instant farouche, d'après un porte-parole kurde. La fin de la bataille marquera la disparition du califat, du territoire, mais pas de l'idéologie. On craint ici une résurgence. Les forces démocratiques syriennes sont persuadées qu'il existe maintenant des cellules dormantes dans des villages autour.
Merci Étienne Monin en direct de l'Est de la Syrie. Alors vous le disiez, cette offensive de la coalition anti-Daesh pose en effet plusieurs questions. Tout d'abord, la défaite du groupe État islamique signera-t-elle pour autant la fin du terrorisme islamiste et plus largement le retour de la paix dans cette région du monde secouée par les conflits interreligieux? Puis l'autre interrogation porte sur l'exfiltration des anciens combattants de l'EI malgré sa réticence initiale. Paris s'est finalement résolu à envisager le retour des ressortissants français retenus par les forces kurdes en Syrie et accusés d'être des combattants de Daesh. Or ce week-end, nos confrères du journal Le Monde précisaient que le retour de ces djihadistes pourrait s'effectuer dans le cadre d'une opération internationale coordonnée, notamment appuyée par les États-Unis. La fin d'un vrai faux suspense en Algérie. Hier, l'octogénaire Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis deux décennies a mis fin à des mois de spéculation en annonçant qu'il briguerait un cinquième mandat en avril prochain. Une annonce qui, en plus d'exagérer exaspérer l'opposition face à ce qui apparaît comme une mainmise sur le pouvoir, intrigue également l'opinion publique. Il faut dire que l'une des dernières apparitions du chef de l'État a montré un homme tassé dans son fauteuil roulant, extrêmement diminué depuis son accident vasculaire cérébral de 2013. D'où cette question. Si Abdelaziz Bouteflika, lequel n'est même plus en état de recevoir ses hôtes de passage à Alger, se représente, qui tiendra dès lors les rênes du pays, ou dit autrement, qui gouverne aujourd'hui derrière Abdelaziz Bouteflika? Les précisions à Alger de Leïla Berato.
Comme en 2014, ceux qui seront visibles, ce sont les fidèles du président. D'abord, ceux qui mèneront la campagne. Abdelmalek Sellal, longtemps ministre et trois fois chef de campagne pour Abdelaziz Bouteflika, ou encore Amara Ben Younes, ancien ministre du Commerce. S'il est élu, le président affaibli peut compter sur ses ministres, mais aussi sur l'appareil du parti du Front de Libération Nationale pour mener les réformes qu'il promet. Comme pendant son quatrième mandat, Abdelaziz Bouteflika est aussi soutenu par le patronat qui vit grâce à la commande publique, ce que des observateurs appellent désormais l'oligarchie des hommes d'affaires, dont l'un des représentants est Ali Haddad, patron du FCE, l'équivalent du MEDEF. Aux côtés d'Abdelaziz Bouteflika, il y a aussi, depuis plusieurs années, son frère. La presse révèle que Saïd Bouteflika a mené une série de consultations à la fin de l'année dernière à propos de la succession du président. Ce rôle pourrait se poursuivre. Enfin, l'armée a rejeté les appels qui lui ont été faits pour intervenir, rappelant qu'elle respectait l'ordre constitutionnel. Que le président soit élu ou pas, les militaires assureront la continuité de leur mission, comme pendant le quatrième mandat.
Même si le pays du sourire est habitué aux crises politiques fratricides, la Thaïlande avait rarement été parcourue par une telle onde de choc ce matin. En écartant la candidature de la sœur du roi aux prochaines élections législatives, la commission électorale aura finalement réussi à mettre le point final à un épisode inédit dans l'histoire du royaume. À 3 semaines de la fin de la trêve qui avait été fixée par Donald Trump et Xi Jinping, les négociateurs américains sont arrivés à Pékin pour tenter de trouver cette semaine une solution à la guerre commerciale qui oppose les deux puissances. Les États-Unis entendent bien obtenir de leurs interlocuteurs des avancées, notamment en matière de respect de la propriété intellectuelle des entreprises américaines, l'un des principaux sujets de friction entre les deux pays. La semaine dernière, le précédent cycle de pourparlers s'était conclu sans accord. Or, cette fois-ci, si aucune issue n'est trouvée, eh bien une nouvelle salve de sanctions sera lancée par l'administration américaine début mars. Autant dire que dans la capitale chinoise ce matin, le climat était plutôt tendu. Les précisions de notre correspondant Dominique André.
Les experts américains ont 3 jours pour avancer dans ce nouveau cycle de pourparlers avant l'arrivée jeudi du représentant au commerce chargé de trouver un compromis avec le gouvernement chinois. L'administration américaine, qui souffle le chaud et le froid depuis le début du conflit il y a 1 an, a refroidi l'atmosphère une nouvelle fois en déclarant qu'il y avait encore beaucoup de travail. Donald Trump a touché les espoirs de beaucoup en ajoutant qu'il ne pensait pas voir Xi Jinping avant la date butoir de début mars. Or, la semaine dernière, le président américain pensait rencontrer le président chinois dans un avenir proche. La pression est donc maximale, alors que la négociation se cristallise sur le dur, la défense des hautes technologies américaines. Les États-Unis exigent que la Chine engage des réformes structurelles pour mettre fin au transfert forcé de technologies, au vol de la propriété intellectuelle, au piratage informatique, ainsi qu'aux subventions massives accordées aux entreprises chinoises d'État pour en faire des champions nationaux. Pékin nie ses pratiques et ne veut pas remettre en cause son plan de développement économique basé sur les nouvelles technologies, le fameux plan Made in China 2025. Si un accord n'est pas trouvé, que se passera-t-il? Le 1er mars, à minuit heure américaine, les États-Unis augmenteront les droits de douane de 10 à 25% sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises, à moins que Donald Trump ne décide de jouer la montre en acceptant de prolonger le délai accordé aux négociateurs, à condition que les discussions progressent.
Instruction obligatoire dès 3 ans, refonte de l'évaluation, rôle étoffé des surveillants. L'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui le premier grand texte sur l'école du quinquennat Macron, baptisé Projet de loi pour une école de la confiance. Le texte porté par Jean-Michel Blanquer entend répondre à 2 enjeux. D'une part, élever le niveau général des élèves et d'autre part, promouvoir la justice sociale. 2 défis qui, a priori, ne souffrent donc aucune discussion. Et pourtant, Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
En réalité, ce projet de loi non seulement crispe les syndicats, mais nourrit par ailleurs les critiques des oppositions. Pour quelle raison, Hakim ?
Et voilà, commencer par l'instruction obligatoire dès 3 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette mesure concerne déjà 97,6% des élèves dès la maternelle. En fait, les 3% restants sont issus notamment des dom-toms, où le nombre de décrocheurs est très important. Il atteint par exemple les 40% en Guyane et les 48% à Mayotte. C'est pour ça que le ministre aujourd'hui veut insister sur l'accompagnement des élèves dès le primaire, mais les syndicats estiment que cela ne va pas changer grand-chose. Autre annonce qui concerne aujourd'hui le projet de loi, elle concerne cette fois l'accompagnement des élèves en situation de handicap, mais aussi la formation des enseignants. Aujourd'hui, terminer les ESP, les écoles supérieures du professorat, mises en place par Vincent Peillon en 2013, qui saluait le retour de la formation supprimée par Nicolas Sarkozy, pour désormais les instituts de formation de l'éducation. Ces derniers seront plus cohérents en termes pédagogiques, car selon les académies, les futurs enseignants n'avaient pas toujours les mêmes plateformes et surtout les mêmes maquettes d'informations pour être formés, ce qui pose souci d'après les syndicats. Autre mesure annoncée aujourd'hui, elle concerne l'évaluation des établissements scolaires. Terminé le CNESCO, le Conseil National de l'Évaluation du Système Scolaire, pour la mise en place désormais du Conseil National d'Évaluation de l'École. Ce dernier devra évaluer directement les établissements, notamment leurs résultats. Aujourd'hui, cela existe déjà par exemple au lycée, avec les évals, mais le principe est d'élargir le dispositif au collège. Il y a déjà des académies pilotes où cela est mis en place, comme par exemple à Nantes. Autre dispositif, pour lutter cette fois contre le manque d'enseignants et le manque de vocation, le ministère de l'Éducation nationale veut inciter les AED, les assistants d'éducation, les surveillants si vous voulez, qui sont destinés, qui se prédestinent au métier d'enseignant, eh bien, à pouvoir encadrer des classes dès la L2 et même jusqu'au M1, ils seront rémunérés. Il y aura aussi bien sûr des bourses, ils pourront bénéficier si ces derniers sont boursiers. Alors voilà, il y a une volonté, mais les syndicats eux, s'inquiètent aussi des moyens, mais il y a aussi les élus qui s'inquiètent, car aujourd'hui, pour financer la maternelle dans le privé, eh bien, le ministère veut rendre obligatoire le forfait mis en place par les mairies dans le public, cette fois aussi pour les écoles privées, ce qui inquiète beaucoup les maires qui aujourd'hui ont vu leur dotation baisser très fortement depuis ces dernières années.
Alors au-delà de ce projet de loi, le gouvernement devrait proposer en outre d'y intégrer des mesures de la proposition de loi socialiste pour l'inclusion des élèves handicapés, tout récemment votée par les députés. Et pour en discuter, invité en direct et en duplex depuis l'Assemblée nationale, Isabelle Brion, déléguée ministérielle pour l'inclusion scolaire. Bonjour madame.
Bonjour.
Et pour vous interroger, Hakim Kasmi est toujours à vos côtés. Madame Brion, les conclusions d'un rapport portant justement sur l'inclusion des élèves handicapés ont été remises ce matin. Quelles sont-elles ?
Alors, beaucoup d'éléments ont été portés à la connaissance de l'Assemblée, qui était fort nombreuse ce matin. Ce qu'il faut peut-être indiquer dans un premier temps, c'est que lorsque ces recommandations arrivent à la suite d'une très large concertation qui a été lancée par les deux ministres, donc Sophie Cluzel pour le secrétariat d'État aux personnes handicapées et Jean-Michel Blanquer pour le ministère de l'Éducation nationale. Et le constat qui est fait, c'est le constat d'une augmentation très significative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les écoles, hein, puisqu'ils sont à cette dernière rentrée 341 000 à peu près. Ça a largement plus que doublé hein, depuis la mise en œuvre de la loi de 2005. Le besoin d'avoir un saut qualitatif dans cette prise en charge scolaire. Et donc, c'est dans cette perspective que la concertation a été organisée.
Alors, Isabelle Le Rion, l'un des points d'achoppement, justement, il concerne l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Vous l'avez dit, ils sont 340 000. Or, aujourd'hui, d'un point de vue numérique, il n'y a que 166 000 accompagnants. Résultat, un AESH, hein, qui sont ces personnes chargées d'accompagner les élèves en situation de handicap, peut avoir 2 à 3 élèves en même temps. Comment peut-on y remédier pour plus de confort ?
Alors, tous les élèves en situation de handicap n'ont pas nécessairement à être accompagnés. Hein, c'est-à-dire que l'accompagnement d'un élève en situation de handicap, c'est une décision qui n'appartient pas à l'Éducation nationale. C'est une décision qui est prise par la maison départementale des personnes handicapées et qui, une fois qu'elle est notifiée, s'impose à nous. Et donc, on accompagne les élèves qui sont notifiés comme devant être accompagnés par la MDPH.
Alors, autre question qui concerne cette fois la précarité de ces accompagnants qui peuvent rester 6 ans, 7 ans en CDD. Est-ce que aujourd'hui, il y aurait une amélioration au niveau de leur statut afin qu'ils soient moins précaires ?
Alors, effectivement, il y a eu un axe tout entier de la concertation à porter sur le métier d'accompagnant et un axe complémentaire sur ce qu'on a appelé les pôles inclusifs d'accompagnement localisés. Alors, sur le métier d'accompagnant, ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que quand on a commencé l'accompagnement à l'école, on a créé un emploi qui était un peu au fil de l'eau. On a maintenant un nombre d'accompagnants qui est relativement important avec des contrats différents. Ce que le ministre a annoncé, c'est d'une part la transformation de tous les contrats en contrat à durée déterminée de 3 ans. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des personnels en contrat en durée déterminée et des contrats uniques d'insertion, des contrats aidés. Donc beaucoup plus précaires, avec des durées qui pouvaient être de 6 mois, 9 mois, 1 an. À partir de la rentrée prochaine, donc dès la rentrée 2019, la totalité des accompagnants seront recrutés en contrat aidé. Donc les contrats uniques d'insertion seront transformés en contrat aidé, avec donc 3 ans de durée d'un premier contrat, un contrat renouvelable ensuite, avant une CDIsation. Donc on espère ainsi stabiliser et pouvoir professionnaliser les accompagnants.
Alors autre volet important, il concerne la formation, à la fois des accompagnants, mais aussi celle des enseignants qui malheureusement ne sont pas toujours formés et se retrouvent à la rentrée avec des élèves handicapés. Il faut préciser qu'il y a plusieurs types de handicap, ce n'est pas la même chose de s'occuper d'un autiste ou d'une personne en fauteuil ou d'une personne non voyante. Là aussi, il y a un effort à faire.
Voilà, tout à fait. Donc c'était effectivement une volonté importante des familles. Je crois que c'est une des premières demandes exprimées par les familles lorsque la concertation a débuté. C'était d'améliorer la formation de tous, enfin des enseignants et des accompagnants. Alors pour ce qui concerne les enseignants, le ministre a bien rappelé que les propositions, elles vont s'intégrer évidemment dans le projet de loi qui va être discuté à partir de cet après-midi, donc sur l'école de la confiance, qui prévoit une réforme de la formation initiale, avec vous l'avez évoqué, la création des instituts nationaux supérieurs du professorat. Pardon. Et donc il est prévu que dans ce cadre, il y ait un volume d'heures obligatoire de formation garantie sur l'école inclusive dans toutes les maquettes de formation. Ensuite, il a indiqué qu'il envisageait, qu'il demanderait à ce que chaque plan académique de formation intègre dans le plan académique des formations, des actions relatives à l'école inclusive. Il a aussi indiqué le renforcement des équipes par des pairs aidants, c'est-à-dire des enseignants ressources spécialisés, formés, qui donc seront mis à disposition des équipes sur le terrain pour venir en appui à leur pratique professionnelle. Juste sur les accompagnants, pardon. Donc, ce qui est indiqué, effectivement, en plus de la question relative à leur statut, c'est une formation donc qu'on va essayer d'organiser le plus vite possible à la rentrée, c'est-à-dire une formation de 60 heures pour les aider à la prise de fonction, et puis ensuite une réflexion sur leur formation continue, puisqu'on aura des personnels mieux stabilisés.
Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a un véritable stress à chaque rentrée. Ouais. Très souvent, les parents se demandent « est-ce que mon fils sera bien accompagné ?» Et c'est souvent source de stress pour les parents à la rentrée.
Oui, alors effectivement, c'est une des difficultés. Les notifications, je le disais, arrivent au fil de l'eau. Et donc, le fait d'avoir des contractuels qui seront affectés, alors c'est la dernière dimension des annonces du ministre, ce sont des pôles inclusifs d'accompagnement localisés qui permettront d'affecter de préaffecter les enseignants dans des pôles de manière à ce qu'ils soient disponibles, mis à disposition dès la rentrée. Voilà. Et donc ça prendra effet pour 2000 établissements dès la rentrée prochaine.
Merci Isabelle Brion, déléguée ministérielle pour l'inclusion scolaire, d'avoir été en direct en duplex depuis l'Assemblée nationale. Merci également à Hakim Kasmi ainsi qu'à Alexandre Abergel pour les moyens techniques. À 2 jours de la présentation au Conseil des ministres du projet de loi santé, Édouard Philippe était ce matin en Indre-et-Loire pour évoquer les soins de proximité, la transformation des hôpitaux de proximité, mais aussi la suppression du numerus clausus sont en effet au cœur de ce texte qui arrivera au Parlement le mois prochain. Et puis à 12 jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron, lui, poursuit son marathon dans le cadre du grand débat national. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui les dirigeants des principaux syndicats agricoles. Parmi les nombreux thèmes sur la table, on citera l'application de la loi alimentation, mais aussi le sujet controversé du glyphosate, dont l'interdiction sous 3 ans n'est pas inscrite dans la loi. Plus de 1000 voitures d'auto-école qui roulent au pas sur le périphérique parisien ce matin. Une opération escargot était organisée dans la capitale pour protester contre un rapport parlementaire qui pourrait menacer leur travail. Les propositions de la députée LREM Françoise Dumas ont été remises vendredi dernier au Premier ministre. Elles n'ont pas encore été rendues publiques. Le rapport ne sera publié que demain. Mais déjà, quelques pistes ont été dévoilées. Lucas Scaltriti, bonjour.
Bonjour.
De ce que l'on sait, certaines propositions pourraient par exemple favoriser les plateformes en ligne, or le secteur refuse de se faire ubériser.
Oui, car les auto-écoles craignent une baisse de la qualité du permis de conduire. Pour appuyer cet argument, ils prennent l'exemple de l'apprentissage du code de la route sur Internet ou via des applications. De plus en plus de jeunes préparent l'examen de cette façon et les manifestants estiment que les règles sont moins bien assimilées. Ils assurent que lorsque l'élève n'a pas suivi de cours physiques, les moniteurs doivent revoir des acquis indispensables lors de la formation pratique dans la voiture. La formation en ligne pour eux doit seulement être un plus et les auto-écoles font aussi la déduction suivante. Si les automobilistes conduisent moins bien, le nombre de morts sur les routes risque d'augmenter.
Alors, en novembre dernier, Lucas Emmanuel Macron avait déjà provoqué la colère des auto-écoles en annonçant une baisse drastique du coût du permis de conduire. Est-ce que les pistes envisagées par ce rapport parlementaire permettraient de faire payer moins aux apprentis automobilistes?
Eh bien, à en croire Pierre Talon, le président de la Fédération nationale des enseignants de la conduite, non, cela reviendrait même plus cher si la formation théorique n'est pas bonne et que les jeunes s'inscrivent en candidat libre à l'examen. Le risque d'échec serait accru et pour repasser le permis, il faudrait alors dépenser encore plus. Pour réduire le coût du permis de conduire, sans passer par l'ubérisation du secteur. Donc, les associations et les syndicats préconisent plutôt que les assureurs aident les jeunes conducteurs à se former, par exemple, ou qu'une partie des recettes des radars et de la répression routière soit utilisée pour réduire la facture.
Merci Lucas Scaltriti. On termine avec un mot rapide de météo, à l'exception de quelques averses sur le massif central, nord-est et Rhône-Alpes. Le ciel sera plutôt ensoleillé. Quant aux températures, elles seront généralement comprises entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.